comme ça, je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8.
Bonsoir.
Salut tout le monde.
Salut.
Bonjour.
Alors, ce soir, c'est dégenré encore. On est toujours là. Et aujourd'hui, on est donc le 7 mars, et le 7 mars, c'est la veille du 8 mars. Et le 8 mars, c'est la journée de la femme.
Mais non.
Ben non, on dit pas ça. Hein.
Non.
Nous, on est féministes, alors on dit aujourd'hui, c'est... enfin non, on dit demain, c'est la journée internationale des luttes pour les droits des femmes.
Oui.
Et donc voilà, il y a toujours le mot femme dedans, mais au fait... C'est quoi, femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça regroupe? Alors, bon, voilà, des définitions, il y en a plein. Il y a des définitions du dictionnaire, mais bon, en réalité, ce terme, il est rempli de symbolique, voire il est rempli de stéréotypes. C'est aussi un terme qui marque des postures politiques, notamment quand certaines parlent de la féminité sacrée ou de la femme. Bref, c'est un mot qu'on utilise tout le temps. Qu'on est toujours amené à utiliser, qu'on peut rejeter ou qu'on peut revendiquer. C'est à la fois une identité de lutte et un questionnement pour plein de gens. Et aujourd'hui, c'est notre question. C'est qu'est-ce que ce mot il raconte pour nous? Qu'est-ce qu'il signifie? Et qu'est-ce qu'on en fait dans nos féminismes? Alors, on va faire un petit tour autour de ce mot en commençant avec un petit bout linguistique. Et ça nous emmènera vers des questions marketing et des questions d'avortement. On fera un détour artistique et on parlera de misogynie, notamment en questionnement des postures transpédéguines et queer. Et puis, à ce moment-là, on se dirigera vers la fin de notre émission où on aura une question finale qui est comment utiliser le mot « femme » sans être essentialiste.
Ah ouais, toi tu nous spoiles la fin direct.
Bah ouais, au début. Comme ça, comme ça tout le monde sait où on va et par où
c'est
on va
vrai.
Passer. Mais d'ailleurs, Marina, c'est toi qui commences à nous faire un petit cours de linguistique.
Ouais, alors je suis pas du tout linguiste, hein, moi, mais j'ai vite fait des recherches. Alors d'abord, je trouve que c'est toujours intéressant d'aller regarder les mots, hein, parce que des mots qui désignent les femmes, il y en a plein dans la langue française. Donc, bon, bah, déjà, il y a effectivement femme, dame, fille, nana, nénette. Enfin, bon, il y a un peu toutes les déclinaisons de nana. Parfois, pour s'adresser à une femme, on va dire ma sœur, mm-hmm. alors qu'on n'est pas du tout de la même famille. Il y a le verlan meuf. Après, des fois, on emprunte d'autres langues pour dire la gadji, la go, pour désigner des femmes. Et après, il y a l'argot. Alors, l'argot, c'est génial. Hein. Il y a une diversité, un nombre incroyable de termes plus imagés les uns que les autres. Alors, il y a tout ce qui est du registre de l'animal. Donc, la belette, la caille, la loutre. C'est un animal, la loutre? Je ne suis pas sûre. La poule, la poulette. La loutre, tu crois? Je ne sais pas. Certainement, si on veut.
La biche?
La biche, la bichette. Mm-hmm. Ouais. Après, il y a... Ouais, vas-y.
Chienne.
Oui, alors ça, c'est dans les insultes. J'avais fait une autre classification pour les insultes.
C'est dans les animaux.
Non, mais c'est parce qu'il y a des animaux où ça va être affectif et des animaux où on se rend compte que, je crois, c'est un peu moins affectif si on dit la chienne.
Et des fois, l'affectif glisse vers l'insultant.
Ah ben, ça, c'est tout le problème de l'amour. Bref, c'est un autre sujet. Après, il y a tout ce qui est de l'ordre du verlan. Donc, on a déjà dit la meuf, mais du coup, il y a... Alors, oui, avant, il y a la femelle... qui est quand même aussi un terme pour désigner les femmes. Et de ce terme-là, tous les verlans, donc la femeux, la femme, la meuf, la... ben, j'en avais d'autres. Oui, parce qu'il y a gonzesse, frangine, greluche, grosse. Et après, zesgon. Enfin voilà, il y en a plein, il y a toutes les déclinaisons. Et après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on peut aussi, pour désigner une femme, utiliser ce qu'elles ont supposément entre les jambes. Donc c'est là qu'on peut réviser ces figures de style en français. Comment appelle-t-on la figure de style où on nomme la partie pour le tout ?
Non, le tout par la partie ?
Non, la partie pour le tout, parce que
ah, la partie on va pour utiliser... le tout.
Et oui, on va dire la fente, je me suis perdue,
la chatte, la schneck,
la fouf, pour désigner les femmes. Donc on va bien utiliser le nom de leur partie génitale pour utiliser... Vous vous rappelez pas comment s'appelle cette... Eh bien, c'est une synecdoque. Souvenir de quatrième en cours de français, peut-être, lointain.
Ça n'évoque rien du tout.
Au début, je croyais que c'était une métonymie, mais en fait, c'est une synecdoque. Mais on peut aussi parler du tout pour la partie.
Ça, c'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais montré une affiche que j'avais faite à ma maman. Et pour pas me dire frontalement « ton dessin, on dirait une vulve », elle a dit « Caro, je crois, dans ton dessin, je vois une femme
». Eh bien, c'est aussi une synecdoque. Voilà. Et après, effectivement, il y a tous les mots qui sont plutôt visés comme des insultes, hein, comme des choses dépréciatives et plutôt méchante, a priori, bitch, cagole, salope, pouf, poufiasse, pute, et donc tous les verlans, lopsa, tepu, taspé, chubby, chouin, bon, voilà, il y en a plein. Et donc, effectivement, les animaux qui seraient aussi utilisés pour insulter les gens, les femmes, donc plutôt les chiennes, je ne sais pas s'il y a d'autres idées. Voilà, voilà un peu tous ces mots, plus ou moins jolis, hein, pour parler des femmes. Et après, ce que je trouvais intéressant, c'est de m'intéresser plus à la question de la définition. Comment, dans le dictionnaire, on définit les choses ? Alors, c'est important, hein, de se rappeler que les dictionnaires, ils ont pour moi une fonction de description d'époque. Ils décrivent tel que la langue est utilisée dans telle ou telle époque. Ils ne sont pas censés être prescriptifs, mais bien descriptifs. Et si on regarde, alors aujourd'hui, a priori, dans la plupart des dictionnaires, le Larousse, le Petit Robert ou quoi, la femme est définie comme un être humain de sexe féminin, un adulte de sexe féminin par opposition à fille et à jeune fille. Voilà, et les exemples, c'est « et voilà, c'est une femme maintenant ». Et l'autre définition de femme, c'est « épouse », puisqu'en français, on dit bien « c'est la femme de machin » pour dire que c'est son épouse.
Du coup, c'est une définition quasi biologique, quoi, la femme, pas dans le sens du genre, mais dans le sens du sexe biologique.
Être humain du sexe féminin, tout à fait. Alors, on revient de loin, hein, parce que j'ai tombé sur un article qui parle de l'évolution de cette définition dans les dictionnaires de l'Académie française, qu'on ne connaît pas comme étant toujours très favorable, enfin bon, bref, aux femmes et à l'évolution de la langue française. Donc, en 1694, la femme, c'est la femelle de l'homme. C'est ça, la définition. Et ça ne bouge pas jusqu'en 1835, où elle devient la compagne de l'homme. Ce qui, déjà, est un peu plus humanisé, peut-être, même si ça reste quand même un problème, qu'elle soit vue uniquement à travers le prisme, que c'est donc la...
Mais du coup, une personne, on va dire, de sexe féminin, pour être réducteur comme le dictionnaire, qui n'est pas mariée, c'est pas une femme.
C'est la définition dans le dictionnaire.
Il faudrait
que tu puisses retourner en 1664 pour leur poser la question. Et donc, en 1932, on a une petite évolution. C'est un être humain de sexe féminin, la compagne de l'homme. Donc, il y a toujours cette idée de dépendance par rapport aux hommes, mais on commence à avoir un peu d'indépendance. Alors, les exemples utilisés restent super sexistes. En 1932, hein, on parle de caprices de femmes, de jolies femmes, de femmes coquettes. Enfin, voilà. Et dans l'édition actuelle de le dictionnaire de l'Académie, la femme n'est plus ni la femelle ni la compagne de l'homme. On peut lire, donc, femme, nom féminin, 10e siècle, issu du latin femina, femme, femelle. Être humain défini par ses caractères sexuels qui lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants. Donc, si l'on doit être défini par notre capacité à enfanter, c'est vrai que je me suis dit que je comprends mieux ce dont on va discuter aujourd'hui, pourquoi un certain nombre de féministes dont on est, nous, on a pris nos distances avec ce terme-là. Effectivement, si on est limité à ça, on comprend un peu mieux pourquoi, des fois, ce mot-là, on a du mal à s'y reconnaître. Et j'ai trouvé autre chose que j'ai trouvé très intéressant dans la question de l'évolution, parce que bon, il y a l'Académie française d'un côté qui bouge très lentement, et bon, il y a quand même d'autres gens ailleurs qui sont peut-être un peu plus rapides. Et en Angleterre, le dictionnaire Cambridge a ajouté à sa définition en 2022 une dimension intéressante, un être humain de sexe féminin adulte. En 2022, c'est un adulte qui vit et qui s'identifie comme une femme, bien qu'on ait pu dire qu'elle avait un sexe différent à la naissance. Ils ont rajouté cette définition-là à la définition du terme femme.
Oui, parce que là, la définition actuelle du terme femme, c'est la définition de femme cis, finalement.
Dans le dictionnaire français, ouais. Oui, mais comme une évidence non ouais. questionnée. Ce qui est intéressant, c'est que là, le dictionnaire anglais a rajouté à sa définition la possibilité d'être une femme en ayant eu un sexe différent à la naissance. Ce qui juste fait exister une réalité que le dictionnaire français n'évoque même pas. Mmh. Voilà. Bon, c'est un peu ça, mes recherches. Tu voulais dire quelque chose ?
C'est parce que, suite à la question d'Ernest, qu'est-ce qu'étaient les femmes au XVIIe siècle si elles n'étaient pas mariées ou en... Moi, j'ai lu une BD récemment qui s'appelle « Dans l'antre de la folie ». Et en fait, elle se retrouvait à l'asile ou à l'hôpital des fous qui était insupportable. En fait, il y a une personne qui a réussi à faire des premiers trucs d'investigation en mentant sur son statut et tout. Et en fait, la plupart des personnes mises
à l'asile,
c'est des meufs. Et des meufs parce que soit elles sont pas mariées, soit pas en dépendance avec un type, etc. Enfin, c'est...
Je pense qu'on pouvait être non mariée et ne pas être mise à l'asile. Hein. Je pense qu'on était quand même une femme et qu'on était juste une vieille femme ou une vieille fille. Enfin, le terme de vieille fille.
Oui, oui. En tout cas, je dis pas que ça n'existait pas en dehors de l'asile. Mais en tout cas, dans l'asile, il y avait toujours ce truc de...
Il y avait ce stigmate-là.
Oui, carrément. Voilà, mm-hmm. C'est juste, ça m'a fait ça comme élément de réponse.
Carrément.
Parmi d'autres.
Et sur ces questions de linguistique, j'avais envie de vous renvoyer au travail d'Eliane Viennot, qui est une spécialiste en littérature et qui est féministe et qui a fait un gros boulot sur la question du féminin dans la langue française et qui milite pas mal pour les histoires d'écriture inclusive et pour faire rentrer ça à un niveau académique et tout. Donc voilà, je trouve qu'elle a fait des articles qui sont intéressants. Voilà, mais c'est vrai que du coup, on avait envie un peu peut-être d'utiliser toute cette discussion-là. Bon, c'était un peu pour faire une base de discussion et dire, nous, alors, comment est-ce que ce mot « femme », quel mot on utilise pour nous, quel mot les autres utilisent pour nous ?
Quel mot on utilise pour parler des femmes, ouais. En général ?
Moi, je pense que j'allais dire, comment on dit ? Je pense que, comme plusieurs personnes... Vu les injonctions à la catégorie femme et à la dévalorisation, etc. Bon, bref, j'ai grandi en me disant que je voulais pas. Et de ça, et pendant tout un temps, ce qui avait trait à de la misogynie, hein, je pense. En tout cas, je faisais tout pour ne pas être ce qui était censé être une femme. Et du coup, je refusais. Enfin, du coup, même je me masculinisais, mais même sans un truc de conscientisation, vous voyez. Après, effectivement, notamment via des lectures féministes, j'ai essayé de rechanger. Et là, même si effectivement, je vais me perdre un petit peu évidemment, mais
tu dis quoi comme mot pour toi ?
En tout cas dans les certains milieux où on te demande tes pronoms, là, je suis bien emmerdée. Parce que il y a rien qui me va, même dire pas que il, pas que elle. Pas de pronom. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que en essayant de pas être misogyne, de reconnaître la matérialité de la catégorie femme construite, mais qu'en même temps, je voudrais qu'on explose cette bisexualisation et cette binarisation de genre qui a été faite en fonction du patriarcat, hétérosexualité et tout. Je voyais ces trucs un peu de différents niveaux là. Du coup, à part voir que je suis dans une non-binarité de je sais pas quoi, mais qu'en tout cas, socialement, en tout cas, il y a une ambivalence. Et que même par contre, les gens, c'est rigolo, toi, quand ils se trompent. Parce que des fois, d'apparence, toi, mais en plus, il suffit de pas grand-chose. Hein, mais voilà, on va me dire bonjour, jeune homme ou monsieur. À la voix, on me dit, ah, pardon, madame. Et moi, je suis là, je m'en fous.
Mais dans le langage courant, parce que c'est, je vois bien ce que tu veux dire, mais dans le langage commun, ça t'arrive de dire les filles, les femmes, les meufs, ça t'arrive de dire ça ou tu le dis plus du tout?
Bah, je vois bien que je suis un peu bloquée et que si je le dis, je pense que je vais dire meuf. Parce que, je sais pas, il y aura une distance que... Qui, mais en fait, voilà.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent plus facilement le terme meuf que le terme femme?
Ouais, moi je pense que je signe entre meuf et femme, et je pense en fonction de certains contextes ou de certains sujets, je vais utiliser plus le mot femme ou plus le mot meuf. Enfin, parce que ça me donne la sensation que le mot femme, c'est un langage un peu plus soutenu que meuf, et où du coup, il y a des moments où je trouve ça compliqué d'utiliser le mot meuf. Et en même temps, dans ma tête, le mot meuf, il regroupe un peu un truc un tout petit peu plus large et un modèle moins fermé que femme. Je dirais ça.
Moi, je me suis rendu compte, hein, c'est marrant, à un moment donné, que j'utilisais le mot meuf comme si ça ne voulait pas dire la même chose que femme, alors qu'en fait, c'est quand même la même racine. Mais je me suis demandé, est-ce que c'était une question d'âge, un truc de vouloir que, en fait, que se sentir plus une meuf parce que du coup, je ne me sentais pas une femme adulte. Bon, bah, l'âge avançant, ça ne marchait plus comme argument. Et voilà, mais j'ai souvent eu cette... Je me suis souvent dit que c'était aussi un rapport à l'âge, quoi. Un truc d'être femme, ça représentait quelque chose d'adulte, en fait.
Moi, au contraire, quand j'étais à fin de l'adolescence, il y a un moment, je revendiquais très fort être devenue une femme, parce que l'entrée dans l'âge adulte, que j'associais à la responsabilité, à la sagesse... Et maintenant, la dernière fois qu'on m'a demandé ce que j'étais, je dis « Oh, meuf
ouais, !» C'est marrant, ce truc-là.
Et alors, et le mot « fille » ? Salut les filles !
Mais oui, mais moi, ça a été... Je me suis déjà pris des regards assassins des copines, justement, parce que moi, je l'utilise dans le langage courant. C'est un truc pour moi, dire les filles. Mais même, j'ai déjà appelé certaines camarades féministes. Une fois, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai dit à une camarade féministe, je sais pas quoi, Nana ou Nénette. Mais laisse tomber, j'ai cru que j'allais mourir fusillée sur place. Alors que, mais en fait, c'était il y a 20 ans, pour mes excuses. Mais pour moi, c'était du langage familier. C'était aussi une façon de parler pas très bien. Et c'est marrant, en fait... Effectivement, je pense que ça lui a fait un truc de genre, non seulement de genre, mais aussi de péjoratif. Mm-hmm. Pour elle, c'était péjoratif. Et moi, ça m'interroge que les filles, ça paraisse péjoratif, des fois. Pourquoi ce serait péjoratif de dire « alors les filles, venant de féministes ?»
Moi, ça me paraît péjoratif quand ça vient des hommes. Et que l'on oppose d'un côté les garçons qui ont grandi, qui sont des hommes... Et les femmes qui ont grandi et qui resteront des filles.
Et que dans la rue, t'as « alors les filles ».
Et on dit moins souvent « alors les garçons ». Enfin, moi, je le fais parfois, mais pour me moquer, quoi. Ou en réponse à « alors les filles ».
Oui, et puis c'est vrai que des fois, ça paraît juste complètement décalé. C'est vrai que moi, quand je fais partie du groupe où ça dit « bonjour les filles », je suis là « allô ?» Moi, une fille ? Non, non.
Et je sais pas si c'est une vraie blague, mais en tout cas pour moi, mon souvenir de quand est-ce que je le dis, c'est pour appeler les chèvres. Oh ouais. Allez les filles, on y va. C'est les chèvres.
Et c'était sympa pour les chèvres ou pas?
Ah oui.
Ah. Tu pourrais nous dire, allez les chèvres à nous. Mais quand même, c'est intéressant cette question de ce mot et comment, en tant que féministe, on est plus ou moins à l'aise pour l'utiliser. Moi, je constate qu'on est de moins en moins à l'aise. Et c'est aussi pour des raisons politiques, hein, et des vraies, enfin, je veux dire, des raisons de réflexion autour de plein de questions politiques dans le féminisme. Mais j'ai constaté, là, il n'y a pas longtemps, en lisant le communiqué de la coordination féministe pour le 8 mars, le communiqué 2024, là, le mot femme n'apparaît pas dans le communiqué, deux pages H4, n'importe quoi.
Deux pages A4
de communiqué féministe, il n'y a plus le mot femme dedans. Et c'est sûr qu'il y a 10 ans, il y avait le mot femme, les mêmes genres de personnes qui rédigeaient un communiqué. Et je trouve que c'est intéressant à noter. J'ai pas du tout envie de dire est-ce que c'est grave, pas grave, j'en sais rien, mais c'est quand même intéressant.
Bah, ça dénote quand même le fait que la lutte contre le patriarcat s'élargit à toutes les personnes qui subissent le patriarcat et qui ne sont pas que des femmes. Mmh. Et où du coup, un endroit, c'est intéressant. Et au même temps, c'est vrai que ça recoupe aussi, par rapport à la, pour boucler sur la question linguistique, c'est vrai que l'usage du mot femme est de plus en plus associé à une vision essentialiste, mais aussi parce qu'il n'y a pas de différence entre la femme comme sexe biologique et la femme comme genre. Et à la différence de l'anglais, où on peut utiliser female pour désigner le sexe biologique et woman pour désigner le genre, et qui, du coup, permet quand même une différenciation entre sexe et genre, que le français, il n'y a qu'un seul mot pour les deux, utilisé couramment. Ça serait malvenu d'utiliser le mot femelle. Et du coup, c'est vrai que ça rend d'autant plus difficile l'usage de ce mot-là.
Bon, on y reviendra, mais c'est vrai que moi, la question que ça me pose, c'est comment ça invisibilise une certaine réalité, enfin, certaines personnes qui se reconnaissent comme femmes dans cette société et qui se vivent comme femmes. Est-ce qu'elles se sentent toujours portées et incarnées dans nos luttes féministes si on ne les nomme plus? C'est une question que je me permets de poser quand même.
C'est une des grandes questions de cette émission.
Et ouais. Mais alors, en parlant de tout ça, ça donnerait envie d'écouter un petit morceau de musique qui nous découpe.
Oui, un morceau de musique qui parle des femmes, de leur représentation, de leur vision et des mots.
Alors, c'est Brigitte Fontaine, je crois. La côtelette.
Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit joueur. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord j'ai les cheveux trop longs, mes ongles c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille c'est pas pour écouter, pour les connaisseurs c'est un fruit. Je suis une confiture, je suis une pâture, je suis un liseron, je suis un édredon. Je suis une poupée et je suis un gibier. Je suis la femme. Si j'ai un nez, si j'ai deux pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas les orienter. Si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation. On pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir, je suis un reposoir, un monstre familier, une puce dressée. Poète, prends ta lyre, tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.
Radio Campus Grenoble 90.8, toujours sur Dégenré, l'émission pour déranger.
Et alors, on se disait que le mot femme avait tendance à s'estomper de certains courants féministes, mais pas du reste du monde a priori. Caro, dis-nous en plus.
Pas des restes du monde a priori. Ce que ça m'a fait penser quand Marina, tu as dit que dans le dernier tract de l'Assemblée Générale, on ne voyait plus ce mot. C'était, mais en fait, la femme, elle existe encore, en tout cas en tant que cible marketing. Que, par exemple, la dernière fois où j'ai été énervée par une pub et j'ai pris la décision d'arrêter d'utiliser YouTube sans bloqueur, quelle drôle d'idée, c'était quand c'était le moment de remettre les shorts et les jupes et les débardeurs, que j'écoutais mon petit morceau et qu'après, la petite voix me disait « Oh, pour le printemps, mes jambes aussi ont besoin de douceur et de naturalité. » Et ça m'avait énervée de penser que Google avait bien noté que j'étais dans la catégorie femme et que Google avait bien noté que les annonces qu'il fallait me faire passer, c'était des annonces qui étaient supposées me parler parce que je serais supposée aimer la douceur et le naturel. Et d'ailleurs, pour préparer une émission qui passera sur Dégenrer plus tard, je lis un bouquin qui s'appelle « Une histoire des produits menstruels » et pour laquelle l'autrice a choisi dans son livre, pour raconter cette histoire, parfois de parler de femmes et parfois de parler de personnes menstruées. Et elle a expliqué la différence d'utilisation comme ça, dans la toute première note du livre. En disant que quand elle parle de personnes menstruées ou simplement de personnes, c'est pour évoquer le groupe entier des individus susceptibles d'utiliser des produits menstruels, alors que quand elle utilise l'expression « les femmes », elle parle de groupes construits et désignés comme tels dans certains contextes, par exemple en renvoyant le ciblage marketing d'une publicité. La femme à qui l'on vend des choses en présumant que la douceur et la naturalité, ça va lui parler comme argument de vente. Donc oui, je pense en 2023, la femme, la féminité, le au féminin, ça peut encore servir comme argument de vente. On le lit encore dans des titres de livres, par exemple. La carrière au féminin. Bon, en 2023, on a aussi des fabricants qui essayent de s'adapter à ces personnes qui refusent d'être assignées femmes, mais des fois en aboutissant à des compromis un petit peu maladroits. Je pense toujours, en revenant à ce livre sur l'histoire des produits menstruels, les tentatives des personnes qui développent les applications de suivi du cycle d'utiliser des formules comme les femmes, les filles et les personnes menstruées, vous savez, le troisième sexe un peu. Ou alors parler d'un article sur pourquoi les femmes et les personnes qui ont un cycle sont sous-représentées dans la recherche médicale. Voilà, c'est entre-deux où on veut continuer de parler d'une femme et du coup les personnes concernées qui n'en sont pas vraiment deviennent une deuxième ou une troisième catégorie. Et l'autre endroit où le mot femme n'a pas du tout disparu, c'est dans les communications institutionnelles, gouvernementales, à propos des actions pour réduire les inégalités. Par exemple, dans les milieux professionnels, j'ai regardé par exemple la brochure du CNRS concernant leur plan d'action pour l'égalité professionnelle. Et là, sur les trois pages de la brochure, eh ben, le mot femme, on en a 14 fois. Bon, certes, 8 fois, c'était avec les hommes, l'inégalité femmes-hommes. Recruter des femmes et des hommes de très grande qualité pour contribuer au rayonnement de la recherche française.
Tu nous fais rêver, là.
Et voir un équilibre femmes-hommes dans la répartition des fonctions d'encadrement. Et accroître la visibilité des femmes expertes dans les médias. Et tout ça, bien sûr, dans le but de ne pas perdre ce vivier féminin qui pourra contribuer à la grandeur de la recherche française, vous voyez. Du coup, dans les communications institutionnelles, la femme et le mot la femme sont également très loin d'avoir disparu. Mmh.
Et on peut noter, on va pas s'étendre, mais donc là, l'IVG vient d'être constitutionnalisée, je sais pas comment on dit ça. Et alors que effectivement, ça aurait pu, en tout cas, il y a des personnes qui se battaient pour que ça soit, entre autres, comme que nul ne peut être privé du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Bon, bah, il se trouve que là, la femme. Et donc, avec ce singulier-là, la femme a été notée dans cette constitution. Du coup, on... comment dire sans nier que...
C'est quoi la phrase, du coup, qui est dans la constitution, tu sais?
Y a plusieurs choses qui... Déjà, c'est pas le droit, c'est la liberté. Ouais. La liberté à la femme. Voilà, c'est ça, la loi détermine... Ben, non, parce que là, c'est encore l'autre chose, mais la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté qui garantit à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Mm-hmm. Du coup, il y a plusieurs choses qui vont pas, hein. Liberté au lieu de droit, que ça soit la loi qui... Tout ça, et la femme, donc... ça va pas puisque ça exclut des personnes transgenres. Ça exclut... Enfin bon, bref, il y aurait plein de choses à dire, mais en tout cas là, la reconnaissance de la femme, c'est pas dans le sens qu'on aurait souhaité. Et en tout cas, il y a plusieurs collectifs, que ce soit juridiques ou d'acteurs, actrices sur le terrain ou de féministes, qui bon, ben, disent c'est pas que c'est rien, mais en tout cas, il y a une vraie déception sur ce texte.
Il s'est joué exactement la même chose par rapport à la PMA. Au moment où il y a eu l'autorisation, enfin une loi pour l'accès à la PMA, il y a eu tout un débat pour l'accès à la PMA des personnes, aux personnes trans, et ça a été refusé à l'Assemblée. Et du coup, la loi, au final, elle autorise les femmes seules et les femmes en couple à concevoir des enfants par la PMA. Et il y a eu vraiment des gros débats autour et des débats extrêmement transphobes, notamment à l'Assemblée, pour et qui est donc la loi exclut les personnes trans de l'accès à la PMA.
Oui, c'est ça.
Des personnes trans ayant un utérus et pouvant concevoir, pouvant porter un fœtus, un enfant.
Oui, bah là, et c'est transphobe, et c'est on retombe un peu sur selon le biais dans lequel on le lit, sur une essentialisation où que la femme serait donc un organe reproducteur.
Oui, une réduction finalement.
Voilà, voilà, c'était une petite contribution.
Tout à fait.
Et du coup, cette notion de femme, elle est donc fort liée à cette question de la reproduction, par exemple. On le voit là, par exemple, dans la question de la loi, ou comme objet marketing. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, direct, t'as dit objet marketing et j'ai pensé à Moulinex libère la femme. C'est vraiment dans la femme comme objet marketing, ça m'a directement fait penser à ça. Mais aussi, on voit fort dans les médias ou dans de la musique ou dans des films, comment la représentation de la femme, elle est aussi réduite à... Enfin, que plein de représentations fabriquent des sortes de modèles. Et Cynthia, toi, tu voulais nous parler de ça ?
Eh ben, effectivement, j'avais envie de parler un petit peu de culture populaire, surtout mainstream, en fait, et de voir un peu quelle image des femmes y a dans les médias. Et j'ai l'impression que aujourd'hui encore, ça reste encore très 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 clivé entre la sainte et la putain, en fait. Il n'y a pas encore beaucoup d'autres choix. Et du coup, j'ai essayé de regarder des films et tout ça, de voir des trucs. Et les personnages de films, je trouve qu'en général, je vais pas citer forcément des titres, mais je trouve qu'en général, du coup, dans la culture mainstream, les femmes, elles sont souvent, en fait, dépeintes. Enfin, quand on a envie de leur donner une notion un peu plus empowerment et tout ça, elles sont guerrières, en fait. Et en fait, c'est censé être plus féministe, mais elles sont guerrières. Et en fait, elles incarnent toujours un fantasme masculin de la meuf qui va le mettre une fessée, en fait. Et voilà, sous prétexte de donner une image un peu plus féministe, on sort toujours pas de clichés, en fait, qui sont toujours destinés au fantasme masculin, je trouve. Et bref. Et du coup, en fait, je me suis intéressée, par exemple, aux biopics, en fait. Quels biopics sortent, quels sont ceux qui sont sortis l'année dernière, et qu'est-ce qu'ils racontent, et comment ils le racontent. Et du coup, j'en ai pas forcément en maté beaucoup. Mais en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que ce qu'il en ressort, c'est que souvent, les biopics sur des histoires de meufs, de femmes qui ont existé et tout, qui ont fait des choses... Souvent, c'est des biopics. Enfin, on raconte leur vie parce que c'est les femmes de Marie, enfin de gens, de gars connus, quoi. Et on se dit, c'est bien de montrer un peu la femme derrière. Ou alors, elles ont fait des choses en soi. Mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que dans le film, on montre leur carrière, on montre leurs idées, on montre comment elles se sont battues. Mais en fait, à chaque fois, le prisme de la vie de famille, comment elle fait pour lier carrière et famille, c'est toujours hyper important. Ça reste toujours très très présent et elles se définissent en fonction de ça, souvent encore. Je trouve que le mec, en fait, en général, c'est plutôt des couples hétéros, et le mec dans l'histoire est toujours très très présent le personnage féminin va chercher à se définir en fonction de son mec, d'avoir de la reconnaissance, ou alors ça va être un enjeu de s'affranchir du gars qui va être toxique. En tout cas, il est très présent, le personnage homme, là-dedans, dans les films, tout le temps, j'ai l'impression. Et en revanche, quand il s'agit de biopic masculin, ça va être beaucoup plus facile de faire des films sur leurs accomplissements, leurs enjeux, les enjeux qu'ils ont traversés, tout ça. Et en fait, la femme derrière... eux, quand elle va être dépeinte, elle va être beaucoup plus effacée, ou alors un peu montrée, mais parce qu'elle a soutenu l'homme, mais pas tellement en tant que personne à part entière, quoi. Donc je trouvais qu'il y avait encore ça qui ressortait beaucoup. Et sinon, après, bah, je me suis posé aussi des questions, par exemple... En ce moment, j'aime beaucoup m'ambiancer sur Doja Cat, les sons qu'elle fait et tout. Je trouve que j'aime beaucoup son univers qui se développe de plus en plus. Et par contre, bah, du coup, elle a écrit un morceau qui s'appelle Woman. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, vas-y. Vu que la thématique, c'est les femmes, je vais regarder un peu les paroles, ce qu'elle raconte et tout. Et ben, en fait, j'étais pas mal déçue, franchement. En termes de paroles, j'ai l'impression que c'est pas top.
Mais pourquoi ?
Et ben, en fait, du coup, son clip... pour planter le décor. Ça commence avec une servante qui vient voir une espèce de reine incarnée par la danseuse qui s'appelle... Attendez, je vais retrouver son nom, je l'ai noté. C'est une danseuse qui s'est fait connaître dans le clip de Kanye West. Un clip d'une chanson de Kanye West qui a fait un gros buzz où elle danse dedans pratiquement à poil. Elle s'appelle Teyana Taylor, voilà. Donc c'est ce personnage féminin de reine qui a une servante qui vient la voir qui lui dit « Your Majesty, they try to seize your throne !» Enfin bref, une menace pour son trône. Alors du coup, elle va voir des gens qui menacent son trône, et puis en fait, c'est une assemblée de gars. Et puis là, elle fait apparaître Doja Cat et tout, qui se met à danser et qui raconte un peu sa chanson. Et du coup, tout le long de sa chanson, elle est là à dire qu'elle veut être une femme et qu'elle veut être la femme de quelqu'un, on sait pas qui. Et du coup, les paroles de sa chanson, c'est... viens planter ta graine, apprécie mes hanches et tout ça, mettre des bébés dans ta vie pour effacer les dramas, tout ça. Bref, des choses comme ça. Après, il y a un petit passage où elle se veut un peu plus féministe et tout, où en fait elle dit que ses copines, les meufs qu'elle admire, ou je sais pas, des meufs, elles passeront toujours avant des gars. Mais bon, voilà, n'empêche qu'à chaque fois, la question c'est juste être la femme, la femme d'eux. Voilà. Donc j'étais très déçue un peu des paroles, et pour pas citer encore des passages qui potentiellement peuvent être carrément transphobes, je pense, mais comme je suis pas hyper experte en anglais, je me développe pas forcément trop là-dessus. Mais bon, voilà, du coup j'étais un peu déçue de découvrir ces paroles alors que la musique elle est plutôt cool et tout, et voilà. Mais du coup, voilà, c'est très enfermant, on reste... Il faut toujours être très parfaite au niveau de la silhouette. Il faut faire tous les aspects féminins, les ongles, les cheveux, tous les trucs sont hyper exagérés. Je trouve ça cool en vrai, mais bon, voilà. Et par contre, ça reste très essentialisant, je pense, je trouve. Voilà.
Moi, j'ai l'impression que ce que ça me fait, si je peux juste rebondir deux secondes, enfin, parmi des trucs, vous voyez, il y a plein de gens qui l'ont dit, mais Vitig, elle l'avait dit il y a longtemps, là, que la catégorie femme, elle était faite par rapport à la catégorie homme. Et que ça, ben, on peut pas... Enfin, j'ai l'impression qu'on a tout le temps du mal à en sortir, mais que là, j'ai l'impression que quand même, il y a des choses qui... Enfin, j'ai l'impression qu'avant, c'était pas les meufs qui parlaient de leur sexualité, qui la positivaient, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui ont bougé, même dans cette veine-là. Vous voyez ce que je... Pour quand même nuancer un peu le truc. Mais effectivement, c'est toujours ce truc en fonction de l'autre sexe.
Oui, ouais. Que finalement, l'image qu'on voit apparaître à plusieurs endroits de la femme, c'est dans un contexte hétérosexuel aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'hétéropatriarcat comme organisation sociale qui catégorise les individus et fabrique la femme finalement pas très loin des définitions du XVIIIe siècle comme épouse de, finalement.
Oui, oui. Mais je pense que c'est pour ça aussi que nous, là, les féministes que nous sommes et nos copaines, on a du mal avec ce terme femme. C'est qu'en fait, c'est trop étriqué. Et que depuis qu'on est toute petite, on a baigné dans cette culture-là où on va devenir des femmes. Et devenir des femmes, ça voudrait dire des choses quand même assez précises et finalement terriblement réduites. Donc, voilà, je pense que c'est... Moi, c'est ça que ça me raconte. C'est qu'en fait, est-ce que je veux vraiment être que ça ou est-ce que je voudrais être plus ? Et du coup, si je voudrais être plus, eh ben, j'ai envie d'exploser ce mot-là. Et donc, je vais plus vouloir être une femme. Enfin, même si je me reconnais toujours dans le genre féminin, ce mot-là va me déranger parce qu'il est trop serré, il est trop enfermant, en fait. Mm-hmm.
Oui. Oui, et c'est sûr que ça fait aussi des choses très différentes quand on vit ce mot-là comme une injonction et une assignation et une réassignation au cours de sa vie, où on nous demande de correspondre en permanence depuis, dans des trucs de construction sociale au cours de la vie, de correspondre à des modèles, en fondant des familles, en se mariant, en étant, et aussi dans des manières plus féministes finalement, d'être une femme forte, qui assure, qui... Et en même temps, cette injonction et ce modèle, il se répète à un moment sur qui... Et qui peut être acceptée aussi dans la catégorie femme. Et du coup, ça se voit beaucoup avec une transmisogynie très forte, où pour pouvoir accéder finalement à cette position-là, il faut faire ses preuves à travers un certain nombre de modèles, de critères, et de valider un certain nombre de critères pour être acceptable finalement. Et où c'est là où, où ces catégories, finalement, elles sont tellement figées et cloisonnées et enfermantes que c'est assez dur d'utiliser ce mot-là à plein d'égards, quoi. On pourrait écouter un morceau de musique qui vient un petit peu, justement, casser ces modèles en écoutant Todrick Hall.
Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big, bills, bitch, I'm a big deal, legs, legs, face, eyes, thin, waist, thick, thighs, you, me, you, wish, new, phone, who, this, pussy, puss, puss, give him cunt, 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 bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch, girl, what did that girl just say, girl, woo. Girl, I don't dance, I work, work, I don't play, I slay, slay, I don't walk, I strut, 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 and then sashay, okay, but I don't work for free, no, nope. That's not the tea, hunty, no, man, so make it rain on me, me, and I might let you see, what you gonna let them see, my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels,
my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels,
head, shoulders, knees, toes, don't know these hoes, face, lips, eyes, nose, camera, click, we pose, beat, mug, limp, wrist, VIP, list, wave, wave, blow a kiss, I'm that bitch, sis, left, right, left with a spin, bitch, where's my sash and crown, cause I win, bitch, I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch, y'all 6, 7, 8, 9, I'm a 10, bitch, girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work, work, I don't play, I slay, slay, I don't walk, I strut, 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 and then sashay, okay, but I don't work for free, no, nope. That's not the tea, hunty, no, man, so make it rain on me, me, and I might let you see, what you gonna let them see, my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels,
my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels.
Okay, dolls, y'all know what time it is, come on. Everybody on the floor, everybody on the floor. Now I want you to stretch out those arms, stretch out those legs, stretch out that wrist, stretch out that weave. I don't want to see you dance, I want to see you work. Come on, drop for me, drop for me, drop, 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 tongue.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Grenoble 90.8. Et c'était le morceau de Todrick Hall qui s'appelle Nails, Hair, Hips, Heels. Et voilà. Et on va continuer. Je vais avec, en écoutant un mini-montage. En fait, sur Radio Rageuse, il y a deux émissions de radio sur la misogynie qui ont été réalisées au début des années 2010, je dirais, par On n'est pas des cadeaux, une émission transpédéguine et féministe, et Lilith Martin et les autres. Donc c'est deux émissions différentes, les deux qui sont sur Radio Canu. Et on trouve ces deux émissions sur la misogynie sur radiorageuse.net. Et les deux émissions, elles définissent la misogynie comme le dénigrement et la dévalorisation du féminin. Et je vous conseille vraiment de les écouter, elles sont super, et en tout cas, les deux, elles, dans les deux émissions, il y a le même texte qui est lu, et du coup, j'ai fait un montage avec, en prenant la présentation d'une des deux émissions et la lecture du texte de l'autre émission.
La misogynie, c'est dire qu'on ne peut pas être féministe et mettre une mini-jupe, parce qu'on ne peut rien faire avec, on ne peut pas écarter les jambes, sauf qu'on peut tout faire avec. si on s'en fout, si on n'a pas peur de passer pour une mauvaise fille.
Il y a un autre texte que j'avais vraiment hyper envie de lire. C'est un texte qui se trouve dans un fanzine qui s'appelle Un bruit de grelot. Et c'est le numéro 2. Il y a un dossier sur la misogynie. Et du coup, je vais vous lire un petit bout de ce texte qui s'appelle « Être une butch trans en milieu misogyne » par Butch Cassidyke.
Si je ne peux pas être superficielle, ce n'est pas ma révolution. Je n'ai pas été butch toute ma vie, et j'ai notamment eu une expression de genre plus féminine, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Un des changements que j'ai pu constater, c'est que je suis maintenant considérée comme moins superficielle, plus sérieuse, à chercher le pratique plus que le décoratif, que je ne pouvais l'être avant, et aussi plus agressive, plus violente et autres caractéristiques plaisantes qui restent associées au butch. Et lorsque je suis considérée superficielle, c'est à cause des choses qui sont censées être féminines. C'est fou comme les gens peuvent se planter, parce que pour ma part, j'ai l'impression de ne jamais avoir autant assumé mon côté superficiel. Prenons les godasses. Je kiffe les grosses bottes coquées, montantes et si possible à sangles. J'en ai un bon nombre de paires assez considérables. Et franchement, ouais, les dogs de base, c'est pratique. Mais quand t'as des bottes où il te faut une heure pour mettre les lacets, puis les sangles, qui en plus te font un peu mal aux pieds, et où t'arrêtes pas de t'égratigner les jambes à cause des boucles des sangles, à un moment, il faut quand même admettre que ce n'est pas le summum du pratique. Et oui, quand je mets ce genre de chaussures, c'est parce que je veux avoir la classe, quitte à avoir mal aux pieds. Ce qui est quand même carrément superficiel. Autre exemple, j'aime bien les cravates. Dans le genre pas pratique, la cravate, ça se pose là. Ou les pointes aussi, parce que j'aime bien les bracelets à pointes. C'est mon côté fille du métal. Alors les petites pointes, ça va. Mais quand je suis vraiment superficielle, bah je sors les grosses impressionnantes, quitte à me galérer à chaque fois que j'enfile ou retire une veste. Bizarrement, ce n'est jamais là-dessus que les gens font des remarques comme quoi c'est superficiel, pas pratique. Non, ça va être plutôt sur les boucles d'oreilles, même sur celles qui ne me gênent pas. Les trucs un peu roses et un peu girly, les jupes, y compris celles qui me permettent plus de liberté de mouvement que la majorité de mes pantalons, etc. Et puis ce n'est pas à moi qu'on va dire que je suis une bourgeoise à cause de mes vêtements. Je pourrais avoir 300 euros de fringues sur moi, je me ferais toujours moins emmerder que la femme d'à côté qui s'habille intégralement en récup.
Et voilà, c'était du coup des extraits de deux émissions de radio sur la misogynie. Et du coup, moi, la question que ça me donnait envie d'amener, c'est comment dans les identités queer, et notamment dans les identités, dans l'expression de la masculinité ou dans le rejet du mot femme, quelle est la part, en fait, de misogynie qu'il y a là-dedans ? Comment, à un moment, il y a aussi un rejet de cette féminité qui, d'une part, nous a été imposée et qui est de l'ordre de l'assimilation, mais qui est aussi lié à une construction sociale et à une misogynie qu'on intègre au cours de toute notre vie, et parce qu'on vit dans un monde qui dévalorise et en permanence le féminin. Et aussi, ça me donnait envie, ça m'a aussi amené à penser comment cette question de l'identité, elle est assez différente de la question de la position sociale, qu'à un moment, peut-être... Je suis une femme dans la catégorie sociale, je suis assignée femme, c'est la place que j'occupe dans la société. Par ailleurs, je ne me reconnais pas dans ce mot et j'arrive pas à m'y reconnaître. Et du coup, c'est aussi cette question de est-ce que j'arrive pas à m'y reconnaître aussi parce que je suis traversée par une part de misogynie. Et puis, du coup, il y a quand même une grosse différence entre mon identité et ma position sociale, et qu'il y a peu de mots pour parler de ça, au final. Et je voyais, je me disais que ça faisait aussi partie de différentes stratégies, que d'une manière, il y a un côté où on pourrait essayer d'exploser cette définition de ce que veut dire femme, appartenir à la catégorie femme, qu'est-ce que ça veut dire, et se reconnaître dans une identité femme, qu'est-ce que ça veut dire, et on pourrait exploser ça, l'étendre au maximum, et même en n'étant pas très femme, et revendiquer ce mot-là en essayant qu'il y ait la plus grande diversité et de définition du mot femme, et qui est du coup une stratégie légèrement différente que de multiplier les identités et se dire en fait on veut sortir d'un modèle binaire où il y aurait des hommes, des femmes, et en fait on veut plus de ce modèle-là et on veut sortir et démultiplier des identités queer pour pouvoir exister à un endroit où on veut être, hors des assignations. Mais du coup c'est les deux positions et les deux stratégies se questionnent, sont pas contradictoires et peuvent fonctionner ensemble. Et aussi, surtout, c'est qu'à un moment, comme on se vit et nos identités, c'est au-delà de la question stratégique. C'est aussi de l'ordre de trucs qu'on ressent ou de comment on se sent dans le monde. Et du coup, c'est un peu plus complexe que juste parler de stratégie. Mais je pense que la question que ça m'a amené à me poser, c'est aussi comment, à un moment, par exemple, les meufs trans, elles galèrent à pouvoir accéder à cette reconnaissance d'être des femmes, et comment aussi, dans un milieu queer, j'ai l'impression que c'est presque les seules personnes qui se revendiquent femmes. Et du coup, ça pose la question de comment, à un moment, collectivement, venir exploser le modèle féminin en étant plein à se revendiquer femme de plein d'endroits différents, c'est aussi une stratégie qui ouvre, qui détruire ce modèle-là, c'est aussi rendre cette position ou cette identité plus accessible. Mais n'empêche que c'est pas toujours facile à faire, parce que s'y reconnaître, c'est quand même méga compliqué, ou c'est pas aussi simple pour tout le monde, en tout cas. Et qu'aussi, en fonction des contextes, et ça, c'est une question qu'on peut plus se poser collectivement, comment, en fonction des contextes, c'est plus ou moins simple de pouvoir dire, de pouvoir utiliser ce mot-là. Et que moi, il y a des contextes, par exemple, des contextes très hétéros, où c'est hyper dur pour moi que ce mot-là s'approche même de moi, quoi. J'ai vraiment hyper du mal, même je veux même pas de cette catégorie, de cette position sociale dans des contextes très hétéros, que je pense j'ai beaucoup plus facile à me sentir femme avec... Je fais plein de gestes avec mes doigts pour faire des guillemets, que je pense j'aurais beaucoup moins de mal à me sentir femme dans des contextes queer, par exemple. Parce que je pense que je serais moins renvoyée à ce modèle imposé. Voilà. Mes réflexions sur le contexte, l'identité et la position sociale. Mais je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, qu'en fonction des contextes, c'est plus ou moins simple, ou on s'y retrouve plus ou moins dans des mots comme meuf ou femme.
Bah, moi, ça me parle vachement ce que tu dis, parce que justement, en fait, par exemple, au boulot, où je suis essentiellement entourée d'hommes, et où du coup, je suis essentiellement dans un schéma habituel de cis-hétéronormativité. En fait, là, c'est là que je vais avoir envie de plus me revendiquer comme femme, justement, parce que du coup, en fait, montrer que c'est pas forcément pour prouver que en tant que femme, je suis capable de faire la même chose qu'eux, mais c'est un truc de plutôt retrouver une valeur positive à ce terme-là et à tout ce qu'il dégage, tout ce qu'il véhicule comme imaginaire, et plutôt un truc de réappropriation de ce qui, c'est pas une insulte, mais c'est comme si c'était une insulte, parce que par ailleurs, en fait, dans les milieux militants, et du coup pas du tout si c'est hétéro et plutôt queer et tout ça, cette identité-là, elle me parle beaucoup moins, justement, en fait. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus... les choses sont plus complexes que ça, et que, en fait, ce qu'on peut avoir entre les jambes, ou ce qui est écrit sur nos papiers administratifs, ou alors l'identité qu'on revendique, ça ne dit rien de nos qualités humaines, de notre valeur, et alors du coup, ça me parle beaucoup moins dans ces milieux-là, comme terme.
Oui, moi, ça va pas être tant en termes de revendication aussi qu'en termes de ressenti. D'être vraiment plus tranquille avec ce que je suis, avec mon corps, par exemple, beaucoup plus tranquille dans des contextes queer que dans des contextes très normatifs.
Après, c'est sûr que ces trucs d'identité, c'est complexe, parce que c'est pas tout seul qu'on s'identifie. C'est aussi en réponse, effectivement, à un environnement. C'est tout à fait ce que t'exprimes avec ton histoire de travail et de... et de se dire, bah oui, je suis une femme au travail, au milieu de tous ces hommes, en fait, et quelque part, bon, je me l'approprie, ce truc-là, tant qu'à faire. Et non, mais ça me fait penser ça, qu'en fait, on n'est pas... Enfin, ce qu'on est, effectivement, c'est ce qu'on se ressent, mais ce qu'on se ressent, c'est aussi parce que ça répond à un environnement autour de nous. Et je faisais un peu un écho avec un texte que j'avais trouvé intéressant. Enfin, à vrai dire, j'ai un peu oublié, je me rappelle juste du titre, mais le titre nous dit bien ça. « Je ne suis pas trans dans la forêt », ça dit bien ça. En fait, si je suis toute seule dans la forêt, je suis juste moi. Je marche, je ressens les feuilles, le froid, la pluie, le beau temps, enfin bon. Mais je ne suis pas un genre si je suis toute seule. C'est bien entouré par une société donnée, que ce soit la société du travail, la société de mes camarades féministes ou transpédiguines. C'est là que j'ai un genre, il me semble.
On va enchaîner sur la fin de l'émission parce qu'elle approche. Et du coup, avec cette question de comment le fait que le terme femme disparaisse petit à petit, enfin, soit moins utilisé dans des discours féministes, et en particulier... spécifiquement dans des féminismes qui sont marqués par une culture queer, qui sont attentifs à la transphobie, par exemple, le terme femme disparaît un peu dans cette logique de se dire que le patriarcat ne touche pas que les femmes. Et la question, c'est comment, à un moment, les femmes, notamment les femmes cis-hétéros, continuent d'avoir une place dans le féminisme, parce qu'elles sont bien une des catégories opprimées par le patriarcat, et opprimées dans le cadre du patriarcat, et exploitées dans ce cadre-là. Et du coup, comment, à un moment, cette catégorisation sociale que fabrique le patriarcat de manière binaire en hommes et en femmes, elle a quand même pour conséquence qu'il y a des personnes qui sont des femmes, qui sont opprimées. Et du coup, comment utiliser ce mot « femme » sans pour autant invisibiliser les autres catégories aussi exploitées et opprimées dans un système cis-hétéropatriarcal, et en même temps, comment pas le faire disparaître, qui est un peu toute la complexité, qui est une espèce aussi de logique de non-mise en concurrence des positions sociales, c'est-à-dire que le patriarcat, on va l'exploser tous ensemble, et du coup, comment créer des solidarités réelles entre les positions sociales, et comment ne pas en faire disparaître au profit des autres.
Alors, dans le tract de l'AG féministe, mais je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais et puis j'étais à la discussion qui a amené à ça, c'est pour permettre à toutes les femmes et personnes discriminées du fait de leur genre de faire grève le 8 mars. Tata. Mais ça me fait un peu penser à ce que tu disais tout à l'heure, Caro, je me demande si ça ne pose pas le problème que tu soulignais en parlant des personnes menstruées.
Bon, voilà. Mais du coup, il y a femmes dans le tract.
Oui, alors tout à l'heure, je parlais d'un autre communiqué.
Ah, pardon.
Le communiqué de la corde nationale.
C'est deux communiqués différents. Hein. Pardon. Mais là, effectivement, je crois que c'est le moment où le mot femme apparaît. Mm-hmm. C'est pour permettre à toutes les femmes et personnes discriminées du fait de leur genre. Ça, je trouvais ça intéressant comme expression, ceci dit.
Ouais.
Et alors là, effectivement, pourquoi on... Parce que si on met toute personne discriminée en fonction de leur genre, les femmes sont comprises dedans.
Oui. Oui.
Mais c'est le 8 mars et qu'il y a des... Enfin, alors ce tract est un produit d'une assemblée générale qui rassemble différentes féministes et donc c'est le fruit de consensus.
Bien sûr, bien sûr. C'était pour essayer de...
Oui, oui, tout à fait. Oui, non, oui. Mais c'est les discussions qui nous ont animées.
Oui, et c'est toujours cette question moi, j'ai l'impression que ça recoupe la question des listes. Quand on liste des identités ou des positions sociales, il y a toujours le risque d'en manquer. De louper des gens, de louper des positions, des identités, mais ne pas les lister, c'est aussi ne pas les nommer. Ne pas les nommer, ça n'aide pas à les faire exister. Mm-hmm. Et du coup, c'est aussi ce truc de faire des paquets, les autres, les femmes et les autres. Mm-hmm. Et du coup, ça pose ça pose toujours des questions, en fait.
Les alternatives aussi ne sont pas forcément géniales, vu que l'alternative à les femmes et les minorisés de genre, c'est de définir par la négative et de dire des choses sans hommes cisgenres et hétéros. Mm-hmm. Et là, on n'a pas femmes, on n'a pas minorisés, on n'a rien du tout. Mm-hmm. On n'a que les hommes cis-hétéros.
Super.
Ben oui.
Il nous reste du chemin, il nous reste du chemin.
Et nous n'avons pas de solution à vous proposer, finalement.
Mais alors, si vous avez des idées, écrivez-nous.
Voilà, encore une émission qui se termine par une question.
Quelle question ? qui sommes-nous au fond?
Je vais aller dans les bois, moi.
Y a-t-il un nous? Alors, on termine cette émission sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec...
France Gall.
Avec un morceau de musique, blague, exactement, ouais. Avec France Gall. Bonne soirée et à dans 15 jours.
Salut.
Salut.
Toi.